du risque de l'accouchement, du fait que, alors je me souviens, il a commencé en me disant, mais vous avez de la chance, vous en avez deux. Sous-entendu, bah, peut-être qu'il vous en restera un.
Quand dans sa vie on a connu une déflagration, on sait qu'on va être confronté à un choix. Continuer à vivre ou pas. Et puis une fois ce plouf-plouf morbide tranché, continuer à vivre, d'accord. Mais comment ? Mes invités ont vu leur vie sauter en l'air. Et on va s'intéresser aux stratégies de ces survivants de leur vie d'avant. Ils regardent dans le rétro et parlent sans tabou des histoires dingues qui ont fait briller leur vie. Qu'ils soient puissants, drôles, touchants, agaçants, secrets ou impudiques, ils ont tous en commun un truc dans le regard qui va s'entendre dans leur voix. N'attendez pas que la vie vous fasse une blague pour la dévorer. Venez, écoutez leurs histoires, pleurez, rire. Installez-vous confortablement. Et ça va bien se passer. Bonjour Lina.
Bonjour Sarah.
Tu as quel âge, j'allais dire tu as, et puis j'ai bugué parce que je ne savais pas quel âge tu as.
Aujourd'hui, 53 ans.
Ok. Est-ce que tu peux me raconter les débuts de ton mariage et de ta vie familiale et de la construction de ta famille?
Ah, les débuts de ma vie de famille se passent à Paris. On se rencontre, on tombe amoureux, on se marie très vite. Et dans la foulée, on part vivre en province. Et on a une vie, une très belle vie. On sort beaucoup, on est très heureux. On est très heureux, on voyage beaucoup également. Et voilà, et on a envie de construire une famille ensemble.
Et alors, vous construisez une famille rapidement ?
Alors, les choses ne viennent pas si facilement, mais au bout de quelques années, oui, quelques années quand même, on a été un petit peu aidés et je tombe enceinte. Je tombe enceinte, donc c'est un grand bonheur. Et le début de grossesse est un peu difficile.
Difficile, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que t'étais malade?
C'est-à-dire, j'étais pas vraiment malade, mais j'avais des douleurs, j'ai eu des saignements, donc j'ai fait quelques allers-retours aux urgences. Et bizarrement, aux échos, ils ne voyaient rien, ils craignaient plutôt une fausse couche. Et en fait, un jour, donc finalement, j'ai un rendez-vous de contrôle et l'infirmière me dit, la sage-femme me dit, mais qu'est-ce qu'on vous a dit exactement aux urgences, là, deux fois, trois fois? Bah, j'ai dit, écoutez, bah, on m'a dit que peut-être, potentiellement, il y avait un problème. Et elle me dit, bah, non, il n'y a pas de problème. Enfin, si, enfin, oui et non, enfin, vous en avez deux. J'ai dit quoi, deux problèmes? Non, deux bébés. Et c'est comme ça qu'on a su qu'on allait avoir des jumeaux. Voilà, donc c'était inattendu, totalement inattendu, mais une grande joie.
Et alors, tu m'as raconté un truc qui arrive, alors qui doit arriver plus souvent que je ne l'imagine, mais en tous les cas qui n'est pas dans le cliché des femmes enceintes. On t'a dit de faire attention à ton poids, mais de quelle façon ?
Alors oui, effectivement, donc, avant de tomber enceinte, j'avais effectivement le cliché de la prise de poids, donc je m'étais préparée à me dire, bon... il va falloir faire attention. Et en fait, pas du tout. Très rapidement, on m'a dit, écoutez, en fait, vous n'avez pas du tout le... Alors, je sais pas si c'était le gabarit ou le poids. Enfin, je m'en rappelle plus. Et en fait, on m'a prescrit un régime alimentaire, au contraire, pour prendre du poids. Et donc, j'avais un régime alimentaire où je devais manger toutes les 3 heures ou 3 heures et demie. Donc, me lever la nuit pour manger. Et donc...
Comme moi aujourd'hui, quoi.
Bah, un peu comme moi aujourd'hui, en fait. Hein. Donc, il mangeait des choses, enfin voilà, c'était complet, il fallait que ce soit vraiment voilà, complet, des fruits, et donc y compris la nuit où je me levais pour manger. Donc voilà,
mais plutôt joyeux quoi,
mais plutôt joyeux. Après avec voilà les aléas de grossesse comme tout le monde, voilà, on n'arrive plus à rentrer dans ses vêtements, logique.
Et on est content, ça veut dire que le ventre pousse.
Le ventre pousse, voilà, mais plutôt une grossesse. Alors un peu d'angoisse quand même, parce que c'est la première grossesse, la grossesse gémellaire. Comme tout le monde, je pense. Et puis, dans une grossesse qui se déroulait plutôt bien.
Un jour, tu prévois d'aller t'acheter des maillots de bain. Et avant, tu passes faire un check chez le médecin.
C'est ça. Donc, j'avais mon programme. J'avais décidé, en bonne future maman, effectivement, de me mettre à la natation. Et donc, je voulais aller acheter des maillots de bain, mais j'avais effectivement un rendez-vous de contrôle à l'hôpital avec mon obstétricien. Et donc, j'y vais avec ma maman, je me rappelle, qui était là. Et donc, pour un rendez-vous de routine, une écho routine. Malheureusement, ça se passe pas tout à fait comme prévu. Donc, j'arrive toute guillerette. Et puis, l'obstétricien me fait, avant même l'écho, me regarde et me palpe le ventre. Il me dit, mais là, ce qui vient de se passer, là, ça vous arrive souvent. Je lui dis, mais quoi? Et ça n'est rien passé. Ben là, alors je dis, là, le bébé qui bouge, oui, il bouge beaucoup. Enfin, oui, il bouge beaucoup. Et il me dit, non, en fait, il bouge pas. Là, vous avez des contractions. Donc, on va prendre on va minuter. Et en fait, il me dit, je sais pas ce que vous aviez prévu, mais on vous garde, vous avez des contractions toutes les 10 minutes. Et j'étais à 5 mois et demi de grossesse. Et là, je me dis, mais plaisante, ça va passer. Et non. Et j'avais des contractions toutes les 10 minutes, donc j'ai été hospitalisée. Et à ce moment-là, mon mari était en déplacement, donc n'était pas là.
Donc ton mari est en déplacement, qui est-ce qui reste avec toi à l'hôpital?
Ma mère, donc enfin à l'hôpital non, mais qui était auprès de moi, ma mère, qui était venue justement parce que mon mari était en déplacement. Et donc je me voilà hospitalisée. Et donc il m'explique que alors ça arrive pour les grossesses gémellaires, une première grossesse. Ils sont assez confiants et ils me disent, écoutez, on va vous donner un traitement et on devrait pouvoir arrêter les contractions, le travail. Et puis, alors ils me disent, en revanche, si c'est le cas, vous serez immobilisé jusqu'à la fin de votre grossesse, il faudrait que vous restiez couché. Mais ils étaient plutôt confiants et donc ils m'expliquent aussi que l'enjeu, donc c'est d'arrêter. Je leur demande quand même, je leur dis, mais si on n'arrête pas, qu'est-ce qui se passe? Et là, ils me répondent pas vraiment. Ils me disent, non, mais de toute façon, ce qu'il faut, c'est gagner du temps. Il faut gagner du temps. Donc, on va vous donner ce traitement. Vous allez être resté avec nous. Il faut gagner du temps, que les enfants restent le plus longtemps possible, dans votre ventre, qu'ils grandissent. Ne vous inquiétez pas. On va vous prendre en charge. Tout va bien se passer.
Et donc, tu prends ce traitement?
Et donc, je prends ce traitement qui était donc par perfusion. Et à ce moment-là, je ne réalise pas du tout que c'est possible d'accoucher. Et en fait, au bout de, donc, je prends le premier jour, le deuxième jour, et en fait, assez vite, il m'explique que le traitement va devoir être arrêté parce que je le supporte mal. Et visiblement, en fait, mon cœur ne réagit pas bien. Et donc là, je me dis, mais donc s'ils arrêtent le traitement, qu'est-ce qui se passe? Mais malgré ça, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me dis, bon, s'ils l'arrêtent, c'est que voilà, ils savent ce qu'ils font. Donc peut-être que naturellement, les choses vont se tasser. Je bouge pas, je suis à l'hôpital, je suis bien suivie.
Statu quo, quoi.
Statu quo. Et ils me disent, bien sûr, on vous garde. Au bout de, oui, peut-être 2 jours, donc mon mari rentrait ce jour-là, ce soir-là, le soir. Donc il l'autorise à venir à l'hôpital. C'était assez tard, un vendredi soir. Et donc mon mari vient me voir, bon, je suis hospitalisée. Et il repart vers minuit, 1h du matin. Donc moi, je m'endors et je me rappelle exactement de ce moment. À un moment, je bouge, mais je bouge comme on bouge, Alors, je me retourne pas, mais vraiment, enfin, je fais un petit mouvement. Et là, je sens quelque chose se passer et je sens un liquide. Et donc, je perds les os. Et donc là, on était à un peu plus de... Ça devait faire une semaine que j'étais là.
Donc pas encore à 6 mois de grossesse.
Donc pas tout à fait à 6 mois. Et donc je perds les os. Et là, je me dis, aïe. Là, c'est pas bon du tout. Parce que j'ai bien retenu, ils m'ont dit qu'il fallait garder vraiment que les enfants restent au chaud le plus longtemps possible. Là... Même si j'ai aucune notion finalement de l'impact, de ce que ça, je sens que c'est voilà que on est dans un moment compliqué. La première chose que je fais, c'est que donc j'appelle mon mari qui vient tout de suite, bien sûr le personnel médical et là il m'explique que ils disent oui c'est sûr c'est bon. Ouais. On aurait souhaité que ça ne se passe pas, mais il y a possibilité en fait que vous restiez si vous ne bougez pas, la grossesse peut se poursuivre même si vous avez perdu les os. Il reste toujours en fait du liquide amniotique dans la poche et dans les poches, et donc on peut maintenir en fait une grossesse au moins pour laisser le temps aux enfants de se développer au maximum. Donc, il me donne cet espoir en me disant peut-être que vous allez y arriver, peut-être que
ça peut se poursuivre comme ça.
Et en fait, et donc il me donne également un médicament censé aussi retarder le travail. Et les heures passent parce qu'on compte en heures. Et voilà, sachant.
Oui, c'est ça que tu m'as dit. Ils t'ont dit que l'objectif, c'était. Ça se comptait plus en jours.
Ça se comptait plus en jours, ça se comptait en heures. Et la seule chose, finalement, qui me fait un peu espérer à ce moment-là, c'est que quand j'ai été hospitalisée, il m'avait dit on va essayer donc de maintenir au maximum, mais quoi qu'il en soit, il faut que vous passiez au moins la 27e semaine. Et donc, je suis rentrée à 26, et dans la nuit, je passais la 27e semaine, dans cette nuit-là. Donc, après, en comptant, je me disais, bon, ça fait quand même pas beaucoup, 27, mais ils m'ont parlé de ce cap. Oui. Donc, peut-être que ça a effectivement, certainement, ça a une signification par rapport au niveau de développement des enfants. Et puis, une lueur d'espoir dans cette nuit-là, c'est que donc ils font une échographie et en fait les bébés vont bien, les bébés, le cœur bat, les bébés vont bien, ils bougent. Donc eux, ils ont l'air tout à fait même si voilà, la poche s'est rompue, j'ai des contractions, ils semblent tout à fait aller bien. Donc ça je m'accroche à ça. Et en fait, le travail repart, et à un moment donné, vers 5-6 heures du matin, ils me disent, écoutez, il faut vous préparer, vous allez accoucher.
Ils te parlent de la situation des enfants à ce moment-là?
À ce moment-là, ils ne m'en parlent pas, je ne le demande pas non plus. En fait, je suis terrorisée. Ils me disent on va quand même vous faire une injection, en fait je me souviens plus du produit qui est un médicament pour favoriser la construction des poumons des enfants ou en tout cas stimuler
le développement.
Donc ils me disent qu'ils vont effectivement me faire une injection qui a pour objectif de développer les poumons des enfants de façon accélérée, en tout cas de leur donner toutes les chances, puisqu'à ce terme-là, bon, même si j'ai pas tout compris, je comprends que a priori donc le système respiratoire n'est pas viable, n'est pas développé. Et donc je m'engage dans un travail. Alors, qui est, un accouchement, un travail comme toutes les femmes peuvent en avoir, qui est assez long, assez douloureux, puisque j'ai aussi compte tenu de la semaine passée, des soucis cardiaques que j'ai pu avoir. Je comprends vite que la péridurale est très 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 peu dosée, donc j'ai un travail voilà où j'ai bien vécu le travail et juste avant d'entrer en salle d'accouchement, donc le lendemain vers midi, ou 11h ou midi, là nous voyons le professeur, donc le chef de service de la néonatologie qui vient nous voir avec mon mari et qui nous explique là ce qui se passe. Et qui donc, en très peu de mots, mais nous explique de façon très très délicate, mais quand même, là, je dirais, entre guillemets, la vérité est assez quand même brutale, qui nous explique le terme, donc 27 semaines, le niveau de développement des enfants, donc dont ni le système respiratoire, ni le système digestif, ni quasiment tout, enfin voilà, les systèmes ne sont pas achevés, du risque de l'accouchement, du fait que alors je me souviens, il a commencé en me disant mais vous avez de la chance, vous en avez deux, sous-entendu bah peut-être qu'il vous en restera un au moins. Là on prend vraiment conscience que c'est alors on vit dans l'instant, on se projette pas du tout, il nous parle pas des suites, il nous parle simplement de ce qui va se passer. Et donc il nous explique voilà que l'accouchement va se dérouler comme un accouchement d'un enfant à terme, et que il nous revoit après. Et donc là on y va.
Donc tu accouches de ta petite fille.
Oui.
Comment elle va ?
Elle va bien, dans le sens où elle naît par voie basse. Il me la pose en fait sur la poitrine, mais une fraction de seconde puisqu'elle part immédiatement. Mais je la vois. Voilà. Donc là, un certain temps se passe. On va dire que la naissance de mon petit garçon se fait de façon un peu plus compliquée. Et lui, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. En revanche, le temps qu'il passe d'un couloir à l'autre, son père pourra l'apercevoir. Mais moi, je ne le vois pas.
Ça change quelque chose que tu ne l'aies pas vu ?
Non, parce que j'ai su que son papa l'avait vu.
D'accord.
Et donc, il n'avait pas pu voir notre fille qui est partie très très rapidement. Donc, à nous deux, on les a vus.
Donc, t'es à 27 semaines. Plus un jour. T'as accouché de tes deux jumeaux, une fille et un garçon. Et comment ils vont ?
Alors là déjà, par rapport à ce que le professeur nous avait dit, je me dis, ils sont là tous les deux.
Ils sont vivants.
Ils sont vivants, tous les deux. Et quelque part, tant que j'ai pas de nouvelles, c'est bon signe.
Tu peux nous dire quel poids ils font ?
800 et 850 grammes.
Je me rends pas compte, c'est quoi en termes de taille ?
Ils tiennent dans la main. Ils tiennent dans une main. Et leur papa les voit. Donc, ils me racontent, en fait. Donc, moi, je suis installée dans une chambre, donc dans un service, donc maternité classique, mais dans une chambre seule. Et donc, le service de néonatologie n'est pas au même étage. Et donc, leur papa les voit. Il m'apporte il fait une photo de mémoire. Et je le sens grave. Il est inquiet, mais il gère. Il gère admirablement.
C'est bien de le souligner parce que souvent dans ces récits, les papas ou les maris sont défaillants. Là, lui, il assure.
Il assure, vraiment. Vraiment.
Enfin, je dis souvent, c'est pas gentil. Non, mais en tout cas, ça peut arriver. C'est une péripétie.
C'est pas le cas.
Comment se passent les premiers jours ? Est-ce qu'il y a un genre de routine ou est-ce que c'est impossible d'imaginer une routine dans ce genre de service ?
Alors, les premiers jours après la naissance, c'est un peu je me trouve un peu dans un brouillard. Donc, je suis dans ce service immobilisé, parce que voilà, sur les suites de mon accouchement, enfin, on fait que je ne peux pas me déplacer. Et je suis un peu dans une bulle. Jusqu'à ce que, et donc, je n'ai toujours pas vu les enfants. Il doit se passer un jour ou deux.
Et tu te souviens de la première fois que tu les vois?
Et je me souviens de la première fois que je les vois, et en fait, c'est mon obstétricien qui m'amène Manu Militari. C'est-à-dire qu'il passe dans ma chambre et qui me dit, bon, qui prend de mes nouvelles, et qui me dit, mais vous avez vu les enfants? Et je lui dis, bah non, je peux pas marcher, je ne peux pas. Il me dit, mais bien sûr que si. Oh, mais là, il est trop tard. Mais bien sûr que non. Et en fait, il va chercher un fauteuil. Il me dit, je vous aide, vous vous asseyez, je vous emmène.
On l'adore, lui.
Et donc, je pense que j'avais peur. Je ne sais pas. C'est le deuxième jour. Et donc, il m'emmène. Et donc, je les vois. Et je me rappelle, effectivement, je les vois. Ils étaient pas ils étaient dans la même unité, mais ils n'étaient pas, côte à côte, enfin dans la couveuse, et je les trouve tellement petits, tellement fragiles. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc ils sont en service de réanimation, donc ils sont dans la couveuse, mais ils sont intubés, ils sont perfusés, il y a des machines partout. Mais finalement, je vois que eux deux, et je me dis, mais waouh. Voilà, c'est waouh, je n'ai pas d'autres mots.
T'as le droit de les toucher ou de les prendre dans les bras?
Les prendre dans les bras, non. Les toucher ce jour-là, oui. Enfin, ils me disent, vous pouvez les toucher, mais très délicatement, puisque la peau, en fait, la peau n'est pas complètement formée. Donc, enfin, il y a une pellicule, mais ils sont très, très, très sensibles. Donc, et donc, pour imaginer, donc, sur les enfants, au départ, ils sont pas habillés, hein, qui sont dans une couveuse, et donc, je peux les toucher, oui. Et leur papa arrive à ce moment, enfin, voilà, au moment où je suis là, avec le médecin. Et voilà, c'est la première rencontre et le premier, voilà, contact, visuel et physique. Et voilà, et de se dire, en fait, à un moment donné, on était tous les quatre. Donc voilà, maintenant, on est quatre. Et il va falloir se battre pour...
Rester quatre.
On
vous parle de pronostic?
On ne demande pas. On sait que, finalement, chaque heure, chaque jour, apporte son lot de bonheur, de progrès ou de désespoir. On sait que au minimum ils resteront à l'hôpital jusqu'à leur terme, donc on est au mois de mai, ils devaient naître le 15 août, ça paraît tellement loin, et on nous explique plutôt le fonctionnement, c'est-à-dire donc ils sont voilà, en néonatologie, où il y a plusieurs unités, la réanimation, les soins intensifs, ensuite différents stades jusqu'à ce qu'ils appellent la pédiatrie. Et là, c'est les enfants, voilà, qui sont en pédiatrie.
C'est le Graal.
C'est le Graal absolu. ils sont habillés. c'est des gros bébés. Tous les bébés nous paraissent énormes. et on sait que au cours de ces 3 mois, si tout se passe bien, ils vont passer d'une unité à une autre. Mais on comprend que si tout se passe bien, ça, voilà, c'est important.
Et alors, comment ça se passe sans nous faire un bilan de santé, et parce que je vois que ça te fait, ça génère beaucoup d'émotions. Mais l'un et l'autre, comment se passe leur trajectoire? Ta fille d'abord.
Alors, ma fille, donc, c'est celle qui a le plus petit poids. Il y a des hauts et des bas, en fait, comme pour tous les enfants prématurés, grands prématurés. Donc, il y a des jours, effectivement, il y a du progrès. Enfin, les progrès, il faut voir ce que c'est. Les progrès, c'est C'est qu'elle a fait moins de désaturation que la veille. En fait, c'est ça, les progrès au départ. C'est qu'il n'y a pas eu de malaise. C'est que les examens, puisqu'ils ont des examens quasiment tous les jours, hein, ou enfin vraiment ou très régulièrement, des examens neurologiques, enfin, c'est qu'on n'a pas d'informations selon lesquelles elle aurait
une hémorragie
ou des choses comme ça. Et donc elle, j'allais dire elle progresse, mais c'est ça. Elle progresse. Après il y a des jours avec, des jours sans, donc des rechutes, des moments où il y a des infections qui peuvent être attrapées. Mais globalement elle prend du poids petit à petit. Donc on se rappelle ils ont passé la barre du 1 kg, 1 kg 100, 1 kg 200. Et 1 kg 100 à 200, c'était une grande marche. Notre expression fétiche, c'est à chaque jour suffit sa peine, en fait. Donc, on se réjouit des petits progrès et puis et on prie très fort les jours où ça va moins bien.
T'es religieuse ?
Oui, pratiquante.
Ça t'a été utile ?
Ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a beaucoup aidée parce que ça m'a permis parfois de... comment le qualifier ? De déposer, en fait, de déposer de la peur, du chagrin. Alors, je ne dirais pas qu'il y avait du chagrin, il y avait de la peur, il y avait parfois un peu de colère, il y avait beaucoup de... aussi de la... de la... je m'en voulais beaucoup, aussi. De ne pas avoir réussi, finalement... à poursuivre à son terme ma grossesse, alors que depuis la nuit des temps, les femmes ont des enfants et tout le monde y arrive, enfin entre guillemets.
Et tu culpabilisais
beaucoup. Je culpabilisais beaucoup. Le besoin de sentir vraiment, de sentir que j'étais quand même utile, parce qu'on est dans un environnement où je voudrais leur rendre vraiment un hommage incroyable, où les équipes médicales sont alors déjà d'une compétence incroyable, et puis d'une humanité, d'une douceur, d'une tendresse pour ces enfants. Enfin, les équipes médicales qui sont dans ces spécialités ont vraiment quelque chose à part. L'organisation fait que les parents, alors bien sûr on est là, c'est important, mais c'est l'équipe qui fait tout. Et donc on s'en remet entièrement à eux pour tout. Et donc voilà, parfois c'était un voilà, on pouvait se sentir un peu impuissant finalement face à, aussi à la douleur, parce que les enfants, ils sont perfusés, ils sont intubés, on les manipule, donc on sent bien qu'il y a, par moment il y a de la souffrance. Et donc voilà, c'était ça un peu les sentiments.
Et comment s'est passé en parallèle la trajectoire de ton fils ? Comment se passe, pardon ?
Alors pour mon fils, alors lui donc c'est celui qui est né avec le 50 grammes de plus,
une poignée de cacahuètes de plus,
le plus gros poids. Alors lui, d'un point de vue de la croissance, sa croissance était plutôt bonne. Mais ça a été très difficile au niveau respiratoire, au niveau digestif, hein, toute la, je dirais, le développement. Et donc il y a eu, voilà, un certain nombre d'épisodes très très compliqués où il s'est battu, vraiment battu. Et voilà, mais il y a eu beaucoup d'épisodes difficiles et pour passer les caps.
Tu n'es pas obligé d'entrer dans le détail, hein. Est-ce que tu peux raconter, pour qu'on passe ce petit moment, tu m'as dit quand on a fait la préparation, oui, au cours d'une des chirurgies, je t'ai dit pardon, tu m'as dit ah bah oui, ils en ont eu des chirurgies. Et raconte un peu la spécificité qu'ils ont découverte sur ton fils.
Oui, alors effectivement, en néonate, il y a des moments où il faut intervenir, alors... Par exemple, le canal carpien des enfants qui n'étaient pas refermés, donc il a fallu intervenir, et puis d'autres. Et effectivement, pour mon fils, au cours de, d'une de ces interventions, ils m'ont dit bah, on en a profité en fait pour en fait mon fils était né avec une particularité qui était d'avoir un sixième petit doigt. Alors c'est pas tout à fait un petit doigt, c'est une excroissance donc sur chaque main. Et donc voilà, on lui a enlevé ce petit doigt. Donc c'était.
Mais ça avait été un des stress pendant la grossesse parce que ça peut être un signe.
Tout à fait, ça avait été un gros stress pendant la grossesse parce que quand il l'avait vu, ça peut être effectivement un signe de pathologie beaucoup plus lourde et grave. Jusqu'à ce que effectivement l'équipe médicale me pose la question de mes origines et que je leur dise que j'étais d'origine africaine et qu'ils réalisent qu'en fait c'est très très courant chez les garçons. En Afrique et que donc a priori il n'y avait aucun problème et il n'y avait effectivement aucun problème. Voilà, mais c'est la petite
anecdote. J'aime bien le au fait on a coupé le doigt.
C'est ça.
On était bien d'accord, c'était prévu.
C'est ça.
Ah mais non, je comptais le mettre dans un cirque et que ça, je gagnais ma vie comme ça. Est-ce que tu peux me raconter ton premier pot à pot avec lui?
Alors
et au bout de combien de temps c'était déjà?
Voilà, les pots à pot, alors je vais raconter pour les deux parce que c'est il s'est passé sur chacun des pots à pot quelque chose voilà spécial. Alors il faut savoir que le pot à pot quand même dans la néonate, c'était la quand on allait faire du pot à pot, c'était la récompense ultime puisque ça voulait dire que les bébés allaient bien et que ils étaient en état entre guillemets de pouvoir être sortis de la couveuse et donc placés en pot à pot donc pour quelque temps, une heure, deux heures. Et donc le premier pot à pot de mon fils est intervenu après la 32e semaine. Ça devait être peut-être la 33e ou la 34e semaine. Et donc on s'était préparé, c'était vraiment un grand jour. Finalement, c'était la première fois que j'allais le prendre dans mes bras. Je l'avais touché, mais je l'avais jamais pris. Et donc on s'installe, c'était vraiment un cérémonial parce que je m'installe dans la chaise, on sort le bébé, il y a des fils, on garde, il y a quand même tous les fils qui le maintiennent au respirateur, qui le maintiennent. Et on m'installe donc mon fils sur moi, sur ma poitrine. Et là, j'ose à peine respirer, il me dit non, mais vous pouvez respirer, c'est bon. Et ils me disent, bah écoutez, on va vous laisser, on revient dans quelques minutes. Et en fait, très rapidement, je sens que quelque chose ne va pas. Et en fait, mon fils fait un malaise. Et là, j'ai même pas les mots pour le dire. Donc, mon fils fait un malaise sur moi. Et donc, je sonne, j'appelle, je crie. Donc, ils arrivent tout de suite. Et je leur dis, j'ai rien fait, je vous assure, j'ai rien fait, mais je ne sais pas ce qui se passe. Et en fait, voilà, très vite, il reprend, entre guillemets, ses esprits. Et l'infirmière me dit, vous savez, des fois ça arrive, en fait, c'est un malaise vagal, vous inquiétez pas. En fait, c'est le bonheur. C'est-à-dire qu'il a eu tellement de bonheur qu'il en a fait un malaise. Et ça, c'est, voilà, c'était un moment, on en a fait d'autres après, mais celui-là reste gravé.
C'est-à-dire que ça lui a fait tellement d'émotions de toucher ta peau, ton odeur, de retrouver, la proximité qu'il avait.
C'est ça, de retrouver en fait ce contact, d'avoir ce contact. Il y a eu tellement de bonheur, tellement de satisfaction qu'il en a fait un malaise. Voilà, donc c'était la...
Et donc ta fille.
Et donc ma fille, elle, c'était un tout petit peu plus tôt, quelques semaines avant. Et à ce moment-là, elle venait de démarrer en fait son alimentation donc jusqu'à ce que le système digestif soit totalement développé.
Est-ce que je peux faire un break pour raconter que tu t'es battue comme une lionne pour tirer ton lait alors qu'on te disait qu'ils allaient pas pouvoir le recevoir et je le dis moi mais t'en as eu tellement. T'as rempli tellement tous les frigos et tous les congèles que t'as fini par le donner à la communauté. Comment ça s'appelle, un lactarium, c'est
ça? Un lactarium.
Pour partager parce que t'étais tellement acharnée.
J'avais rempli tous les frigos.
Et je trouve ça très joli que t'aies partagé avec la communauté en disant bon bah j'ai fait mon max, maintenant prenez-le pour vous.
Voilà, c'est ça.
Bon, alors, excuse-moi. Et donc, elle venait de commencer la...
Elle venait de commencer, en fait, l'introduction du lait. Ouais. Donc, effectivement, qui était donc mon lait. Enfin, quand on parle d'introduction du lait, on commence par 0,5 mg. Enfin, donc. Mais elle venait de commencer, donc, par sonde à être nourrie. Mais par sonde. Et donc là, elle allait bien ce jour-là. Donc ils me disent, écoutez, on va faire le pot à pot. Donc là, je l'avais fait avec aucun des deux. Donc c'était la première. Et donc là, je m'installe. Et donc là, on pose ma fille donc sur la poitrine. Et alors c'était la première fois. Donc là, je ne bouge absolument pas. Et en une fraction de seconde, en fait, elle devait peser. Je ne sais pas. Elle devait peser 1,5 kg, allez, 1,8 kg, enfin même pas 8, elle était toute petite.
Un bel écureuil, quoi.
Voilà. Et en fait, je la vois, enfin je la sens un peu bouger sur moi, et en fait, elle a agrippé mon sein, et elle s'est mise à téter. Oh, et la panique. Et là, je me dis, mais là, je peux pas, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Et elle tétait. Et j'appelle, j'appelle, j'ai écouté, je vous assure, j'ai rien fait. Et en fait, elle est venue. Mais là, ça, voilà. Excusez-moi, je suis désolée parce qu'elle peut pas. Il m'avait expliqué que la succion, ça arrivait à un certain moment, mais qu'il fallait faire attention. J'ai dit là, mais je vous assure. Puis l'infirmière m'a regardée, m'a dit, mais écoutez, c'est qu'elle était prête. Et donc de ce jour-là, en fait, je venais en plus d'avoir effectivement mon lait par sonde. En fait, il me donnait. Je venais tous les jours de toutes les façons, mais j'avais un temps effectivement où j'allais commencer à allaiter ma fille à l'hôpital.
Ça veut dire que c'est elle qui t'a dit quand elle était prête.
C'est elle qui m'a dit quand elle était prête, et c'est vrai, voilà. Donc les deux premiers pots à pot ont été comme ça, quelque chose d'assez incroyable.
Je voudrais lever un peu une incertitude parce que je sais que les gens qui vont nous écouter vont écouter fébrilement. Tes bébés sont sortis vivants. Avec toi, oui. De l'hôpital.
Oui, absolument. Et voilà. On a eu beaucoup de chance. Et ils se sont bien battus.
Donc, vous êtes sortis complètement au bout de combien de temps?
On est sortis à leur terme. Donc, on est sortis au bout de 3 mois, un peu plus de 3 mois à l'hôpital, où on a passé, donc, en fait, toutes ces différentes étapes. Mais comme je disais,
on fait pas le détail. Il y a eu une maladie nosocomiale.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. En fait, c'est pas linéaire, c'est-à-dire que il y a des rechutes, y compris à quelques jours de sortie de l'hôpital, où voilà, il peut y avoir des très très gros problèmes. Mais voilà, ils sont acheminés jusqu'à l'autonomie, en fait, à la fois respiratoire et digestive. Enfin, tout le reste, donc on a pu, voilà, ils ont pu sortir tous les deux, le même jour, parce que parfois c'est pas le cas.
Oui, oui. Et est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui quel est leur état de santé?
Ils sont en pleine forme aujourd'hui. Ils sont pleins de santé, ils sont des adolescents.
Donc ils n'ont pas de séquelles.
Ils n'ont pas de séquelles.
C'est miraculeux.
C'est miraculeux. Ils se sont beaucoup battus aussi. Ils se sont des ados en pleine forme, plein d'esprit, plein d'amour.
Et ils sont beaux. Je sais qu'ils vont écouter, donc. Maintenant pour l'après, j'ai une question. Est-ce que quand on a eu cette terreur, cette peur viscérale de les perdre, même si bien sûr toutes les mères, on est sur un pied d'égalité à cet égard-là, bon, quand on est juive ashkénaze, non, blague à part, est-ce que ça a une incidence sur ta façon d'être leur maman, de les laisser vivre ou pas du tout? Comment ça a impacté ta façon d'être encore en pot à pot avec eux?
Quasiment. alors déjà, la première année, voire jusqu'à leurs 2 ans, ils restent très très fragiles. Et surtout, en fait, quand ils sortent, ils ont 3 mois, mais ils ont 0. En fait, ils viennent de naître. Et donc la première année, en fait, on gère ça. Un enfant qui a un an, en fait, il a 9 mois. Donc, on gère ça avec des enfants qui ont des défenses immunitaires très 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 faibles. Et donc là, les premiers temps, déjà aussi, on est terrorisés parce qu'on est quand même pendant des mois entouré, enfin plus qu'entouré, c'est-à-dire que les enfants sont pris en charge, on est à l'hôpital. S'il y a le moindre, il se passe quoi que ce soit, l'équipe est là. Et donc quand on arrive chez soi, c'est un peu la terreur. Alors déjà, les enfants ont du mal à dormir parce qu'il n'y a pas de bruit, alors qu'à l'hôpital, il y a les bips. En fait, ils sont habitués aux bips, ils sont habitués. Et donc au départ, en fait, ils nous avaient conseillé de mettre de la musique, de faire du bruit dans la maison.
D'accord.
Et effectivement, les enfants dormaient bien quand il y avait beaucoup de bruit. Mais ils sont très fragiles, ça veut dire que pas de communauté, ça veut dire que tous les amis, la famille qui veut absolument venir les voir, il faut leur dire non en fait, parce que et puis c'était il y a quelques années, hein, on est maintenant familier du gel hydroalcoolique, se laver les mains, les masques. À l'époque, c'était absolument pas courant. Or, les rares personnes qui venaient à la maison, eh bien, on leur demandait de mettre des masques, de se laver les mains, de mettre du gel par-dessus. Et certains ne le comprenaient pas. Donc déjà, est-ce qu'on est des parents entre guillemets normaux au départ? Enfin, oui et non. C'est-à-dire que oui, il y a la routine. C'est-à-dire que les enfants, ce sont des nouveau-nés. Moi, je les allaitais tous les deux. Donc voilà, j'ai passé quelques mois assise non-stop dans le canapé, mais comme d'autres mamans de jumeaux. Et donc voilà, tout est rythmé par dès qu'un enfant a fini de manger, c'est le tour, c'est l'autre. Donc au départ, on enchaîne au niveau allaitement, au niveau on les préserve effectivement, on les sort très peu, ils voient très peu de monde vient à la maison. Donc oui, je pense que ça développe quand même un petit phénomène de protection ou de surprotection vis-à-vis des enfants. Et puis ils grandissent, et petit à petit, en fait, ils rattrapent leur mois de retard.
D'accord.
On estime qu'à 3 ans, en fait, ils ont rattrapé. Ils ont leur âge, leur vrai âge.
Et ça a conditionné ta façon? Est-ce que du coup, tu vas voir plus de médecins que tu devrais?
Alors au départ, de toute façon, quand les enfants sortent, ils continuent à être suivis, en fait.
D'accord.
Là, dans l'hôpital où j'étais, le suivi était jusqu'à l'âge de 7 ans ou 8 ans. Et donc, les premiers mois, c'est toutes les semaines, plus une infirmière qui passe tous les jours à la maison pour s'assurer que tout va bien. Et donc, ce sont des examens au fur et à mesure. Alors, bien sûr, jusqu'à 7 ans, c'est pas toutes les semaines. Hein. Après, ça s'estompe. C'est une fois tous les 3 mois, une fois tous les 4 mois.
Ouais, c'est progressif.
C'est progressif, mais c'est... voilà, des examens cognitifs, des examens de vue, de l'ouïe, enfin ils sont de la croissance, enfin voilà, on surveille la croissance, donc ils sont très très surveillés. Donc oui, plus de médecins, mais parce que, et après bon, ils se trouvent, mais
oui, c'est
pas lié à leur prématurité, que mes deux enfants étaient asthmatiques, mais comme d'autres enfants peuvent être asthmatiques, donc oui, plus de le suivi de l'asthme, mais oui, c'est très ça reste très médicalisé. Jusqu'à au moins un an et demi, ils ne peuvent pas être gardés en collectivité, donc ni en collectivité ni par une nounou, parce que enfin aucune nounou ne prendrait la responsabilité de
bien sûr
de garder des enfants.
Donc ça impacte ta vie aussi directement.
Et voilà, donc effectivement ça a impacté, parce que voilà, moi j'ai pas travaillé, j'ai arrêté de travailler quelques temps quand même jusqu'à ce qu'ils puissent être gardés. Et ensuite, peut-être que, à l'inverse, en fait, une fois que les enfants grandissent, c'est aussi la conscience que, justement, on a peut-être surprotégé. Bon, après, je pense, hein, j'admets que j'ai quand même une tendance de maman très, très présente. Voilà, je pense que même s'ils n'avaient pas été prématurés, j'aurais été très, très présente. Je sais que j'ai eu cette conscience-là par moment, une fois que, voilà, qu'on sait qu'ils sont tirés d'affaire, qu'ils vont bien. Parfois, de me dire, d'avoir conscience, justement, du fait que je surprotégeais peut-être un peu trop. Voilà.
Et sur leur tempérament, ça a eu un impact, tu crois?
Alors, je pense que ce sont des enfants... Enfin, déjà, ils se sont tellement battus, mais au sens littéral du terme, que ce sont des enfants qui ont énormément de ressources. Ils ont une certaine forme... Ils peuvent avoir une forme de fragilité aussi, parce que c'est beaucoup de souffrance, et que je pense... Enfin, moi, je reste persuadée que le corps, l'esprit gardent une empreinte, quand même, voilà, de ce qu'on vit depuis le... que l'on vient au monde. Donc, ce sont... J'ai le sentiment que ce sont des enfants qui ont une, de la ressource, en fait, et une très grande force face à l'adversité. Et puis sinon, voilà, que mes enfants sont très, très aimants, sont très, sont des ados, hein, avec leur vie d'ado. Mais ils sont très attentifs, ils sont très, ils ont une très grande sensibilité.
J'ai une question.
Oui.
Tu leur as demandé, je le sais, l'autorisation de faire ce récit.
Oh, oui.
Est-ce qu'il y a des choses dans ce récit, dans cette histoire, que tu leur as jamais racontées et que tu garderas pour toi des pensées ou des événements?
Oui, certainement.
Pourquoi?
Parce qu'il y a, je pense, des choses... j'allais dire qui relèvent de l'intime, qui sont... mais qui ne sont pas forcément racontables. Moi, j'ai le souvenir, en fait, de beaucoup de, d'émotions, c'est-à-dire que cette période, on la vit, j'allais dire individuellement, c'est-à-dire que chacun a sa façon de le vivre, et donc le ressenti ou le souvenir peut être aussi différent, et on a partagé ce qu'il y avait à partager, je pense.
Ils t'écoutent, là, ils vont écouter tes enfants. Qu'est-ce que tu leur dis?
Ah, je leur dis que je suis tellement fière d'eux. Et que, au cours de toutes ces années, c'est peut-être la constance, s'il devait y en avoir une, c'est celle-là. C'est-à-dire que je n'ai jamais douté, depuis qu'ils sont nés, de leur force, de leur capacité à vivre, de leur, et du lien, en fait, de la force du lien qui les unit aussi tous les deux. Et le plus important, finalement, c'est, garder toujours espoir et leur faire confiance, en fait.
Merci.